Comme cela arrive parfois, cette page d'évangile est l'occasion d'une merveilleuse contemplation christologique. Dans ce tableau se dévoilent à nous les deux natures du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et notre Seigneur Jésus dévoile aussi une modalité du projet divin sur l'homme avec cette subsidiarité selon le cœur de Dieu, cette manière si rayonnante de respecter ce que chacun peut faire tout en fournissant toujours ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ce qui est demandé. La nature humaine du Christ nous apparaît tout d'abord alors que l'assassinat violent de Jean-Baptiste vient de lui être rapporté. Cette mort violente emporte Jésus jusqu'au désert. Pour bien se figurer ce qui déroule ici, il faudrait, je crois, en vérité, mimer cette scène, la jouer, essayer de proposer des attitudes, des tons de voix, des émotions. Pour contemporanéiser ce propos, on peut songer à la série télévisée « The Chosen ». Elle a beaucoup été décriée car la nature divine du Christ passe inévitablement au second plan. Mais après tout, n'est-ce pas justement ce qui est arrivé dans la vraie vie de Jésus de la part de ses contemporains? Cette série met en scène et donne donc à réfléchir, à méditer. Bien sûr, les choses ne se sont pas passées comme ça, mais tout de même, ne serait-il pas singulièrement bouleversant de jouer ces quelques lignes sans un mot, mais avec des attitudes d'une expression toute humaine et charnelle, afin de mieux prendre la réalité, de mieux comprendre la réalité humaine de ce Dieu fait homme. Quoi qu'il en soit, Jésus est donc emporté au désert, peut-être pour se replonger en ce lieu où Jean l'immergeur avait commencé son ministère. Si un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille, Jean fut pourtant un cousin qui désigna le grand prophète. D'un bond, dès le ventre de sa mère Élisabeth, d'un doigt, quelques années plus tard. Ayant accosté, voici qu'une nouvelle émotion emporte Jésus. Une foule qui ne sait plus où aller maintenant que Jean est mort, emporte le cœur de Jésus. Regardons Jésus à cet instant. Contemplons-le, contemplez cette foule. Il se tient debout sur le rivage. Plus qu'une foule, il contemple des âmes comblées d'affliction, qui cheminent courbées et sans force, des âmes affamées, celle-là même qui rend de gloire et justice au Seigneur, comme l'a prophétisé Baruch. Peut-être est-ce la page de la Bible qui se déroule justement dans l'esprit de Jésus, avec aussi celle d'Isaïe que nous avons entendue en première lecture. Alors le besoin de guérir le submerge. Le besoin d'achever la création, abîmée par le péché, surgit de son cœur d'homme et l'emporte à nouveau. Quand Dieu répare, il refait à neuf. Mais voici qu'il est interrompu. Les disciples s'inquiètent. Guérir, c'est bien, mais qui va nourrir cette foule ? Au lieu de s'enthousiasmer de ce qui est en train d'advenir, au lieu de vitosifier ce qui se déroule sous leurs yeux, ces hommes vont faire obstacle à Dieu sans même s'en rendre compte. Parvenons-nous à nous reconnaître ici, nous qui sommes si souvent dans l'après au lieu d'être dans le présent? Mon Dieu, si vous êtes partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? S'interrogeait Madeleine d'Elbrel. Toutes ces guérisons avaient ouvert les vannes de la sunt catabasis christique, la condescendance de Dieu. Jésus guérissait les cœurs meurtris. Interrompu, que fait-il ? Eh bien, Jésus renvoie ses apôtres à leur inquiétude. Contemplons encore cette scène. Nous découvrirons comment Dieu s'y prend avec nous à chaque fois que nous aussi nous interrompons son action par nos inquiétudes importunes et perfides. Perfide, ça veut dire qui a perdu la foi, étymologiquement. Jésus nous met au pied du mur. Vous voulez vous inquiéter de ce qui vous dépasse ? Eh bien, soyez dépassés, semble-t-il dire. Mais avec quelle affection Jésus les renvoie à leur inquiétude ? Le texte ne nous permet pas de le deviner. Il faut aller puiser ailleurs pour le découvrir. Justement, dans notre vie de foi, peut-être. C'est alors que Jésus découvre à nos yeux cette subsidiarité qui lui est propre. Iubè quod vis et da quod iubès, écrira Augustin dans une génialissime formule qui résume bien ce qui vient de se jouer. Ordonne ce que tu veux et donne ce que tu ordonnes. Jésus ordonne l'impossible et il demande aux apôtres de se faire serviteurs de l'impossible. Les apôtres sont invités par le Maître à accomplir quelque chose d'impossible. Dieu veut qu'ils soient les serviteurs de l'impossible. Et ces hommes acceptent, et cela s'accomplit. Comme à chaque messe, le prêtre accomplit quelque chose d'absolument impossible. Je vous le garantis. Et qui le dépasse complètement. Et cela advient. Se rejoue alors quelque chose de la création génésique. Dieu dit, et cela est. Quelque chose d'autre encore s'accomplit pour les apôtres. Il y a des restes. Cela pourrait sembler anodin. Il reste 12 couffins plein, un pour chacun, un pour chaque apôtre. Quand Dieu donne, c'est la surabondance. Mais qu'a-t-il fait au juste en permettant ses restes? Eh bien, il leur a donné de quoi nourrir des foules jusqu'à la fin du monde, ni plus ni moins, si l'on peut dire. Mais à une condition, à la condition que eux et leurs successeurs consentent toujours à demeurer des serviteurs de l'impossible. La tentation de l'homme est et sera toujours de chercher à devenir un acteur du possible. Mais Dieu attend autre chose de sa créature. C'est difficile. Car personne ne croit jamais que quand Dieu donne, il donne toujours. Nous pensons habituellement que lorsque Dieu donne un, c'est fini. Khalas. C'est un don fini. Achevé, borné, merci, au revoir. Alors que lorsque Dieu donne, c'est en vérité infini. Non pas un fini, mais infini. Principe du vertu philosophique, du principe philosophique de non-contrariété. On ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Si Dieu arrête de donner, c'est qu'il n'a jamais donné. Ça ne fait pas un pli. Une seule créature qui a cru cela toujours, si bien qu'elle n'a jamais mis la main sur Dieu, ni n'a jamais fait obstacle à Dieu. Marie. Alors ne croyez pas qu'il faille être conçu sans le péché originel pour y parvenir. Ce serait assez tentant, faut le dire. Car Ève n'était pas non plus marquée par ce péché lorsqu'elle a reçu la vie. Et Ève a mis la main sur Dieu, tentée par le diable. La clé n'est pas à chercher de ce côté-là, sinon nous n'y pourrions, mais nous ne pourrions y parvenir. La clé est une disposition du cœur qui naît de la fréquentation du Christ. Une fréquentation singulière, silencieuse, abandonnée, affamée, qui dispose notre cœur à recevoir du Christ la joie de la foi. Alors, nous pouvons comprendre que Dieu donne tout et toujours, et qu'il donne toujours ce qu'il ordonne. Va, et toi aussi, fais de même.